France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont toujours dans les Hauts-de-France. Après le Nord, c'est l'Oise qui est à l'honneur cette semaine. Inventaire non exhaustif de solutions, de bonnes idées, de trucs qui marchent dans ce département picard. Le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure est à Tourotte, pas loin de Compiègne. Et nous parlons aujourd'hui d'une compétition universitaire solidaire. Un grand tournoi de rugby organisé par une école d'ingénieurs agronomes dans l'Oise. Elle espère cette année récolter 100 000 euros qui seront versés notamment à une association de lutte contre l'endométriose. Mais d'abord, plein feu sur un recyclage. Recyclage de déchets très peu ragoûtants, disons-le, mais ô combien innovants. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et on prend des nouvelles d'une entreprise à qui j'ai donné la parole il y a 2 ans dans les carnets de campagne. Elle a pris pas mal d'ampleur depuis. Entreprise qui s'est fixée une mission très importante, recycler les mégots de cigarettes. Bonjour Julien Pack.
Bonjour Dorothée, bonjour tout le monde.
Président et fondateur de Ciao Mégo, qui est basé à Brel, tout près de Beauvais. Alors depuis la dernière fois, il y a eu une levée de fonds, 3,5 millions d'euros pour traiter ce déchet à plus grande échelle. L'entreprise grandit donc.
C'est ça exactement, on a pu du coup passer vraiment l'échelle industrielle pour vraiment faire une vitrine à l'échelle européenne. Donc on est passé sur un site qui est en capacité de traitement de 300 tonnes an, et donc avec toutes les autorisations préfectorales derrière, puisqu'on est aussi sur la récupération d'un déchet dangereux. Donc c'était très important de pouvoir avoir toute la structure adéquate pour récupérer ce déchet-là.
Votre entreprise Ciao Mégo collecte les mégots de cigarettes, les dépollue et les transforme ensuite en matière isolante pour le bâtiment ou en rembourrage textile pour faire notamment des doudounes. Alors la prouesse, c'est la dépollution évidemment, parce qu'il y a plein de cochonneries dans un mégot. Comment procédez-vous ?
C'est ça exactement. Alors c'est notre vraie innovation aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il n'existait pas forcément de technologie capable d'extraire les substances toxiques du coup coincées dans le filtre. Donc on a essayé d'innover humblement en apportant une technologie de dépollution pour extraire cette toxicité en concentré, ce qui va nous permettre de vraiment récupérer la matière du filtre propre. Donc on va extraire aussi les odeurs pour vraiment récupérer 99,7% de cette matière. Ça, on va le faire sans eau, on va pas utiliser non plus de solvants toxiques. En fait, on va extraire ces substances grâce à l'extraction au CO2 supercritique. Donc c'est un process qui est un petit peu technique. Mais en fait, dans nos machines, on va venir mettre dans un premier temps les mégots toxiques. On va aussi y injecter du coup du CO2 qu'on va récupérer de l'industrie. Et on va utiliser le CO2 dans son état supercritique. Donc c'est un état intermédiaire entre l'état liquide et gazeux, qui va permettre du coup d'aller vraiment chercher sur un spectre très large les substances toxiques pour pouvoir faire cette dépollution en circuit fermé du coup dans nos process.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous recyclez finalement 2 déchets différents. Le CO2 que vous récupérez de l'industrie et qui devient, comme vous l'avez dit, du CO2 supercritique, c'est un état de la matière, et le mégot de cigarette qui est un déchet extrêmement polluant, on le sait, et tout ça sans eau. Elle est là véritablement la prouesse, Julien Pack, ne pas utiliser d'eau.
Oui, c'est ça. Le but, c'était en fait le problème du filtre, c'est majoritairement ces substances toxiques qu'il contient à l'intérieur. Donc le vrai challenge, c'est de réussir à extraire cette toxicité sans la mélanger à d'autres ressources. Et c'est là où on va avoir vraiment une innovation vertueuse sur cette partie-là, c'est qu'en fait, c'est vraiment le CO2 qui va venir faire cette extraction. Donc en fait, à l'état supercritique, il va vraiment capturer les 4000 substances toxiques dans la fibre. Il va ressortir de la chambre de nettoyage en repassant à l'état gazeux. Donc il va refaire tomber toutes les toxiques en concentré dans une petite fiole. Et lui, il va être recapturé pour retourner en circuit fermé dans nos process. Mmh. Donc en fait, la seule ressources qu'on va consommer pendant la dépollution, c'est de l'électricité. Mais comme c'est des températures et des pressions faibles, ça nécessite pas extrêmement beaucoup de consommation énergétique.
Alors les substances toxiques que vous enlevez du mégot, quelle forme prennent-elles ? À quoi ça ressemble à la sortie ?
Alors ça ressemble vraiment à un caramel, un peu une sorte de boue collante. C'est une couleur un peu jaunâtre aussi, puisqu'il y a beaucoup de nicotine. Mais on va retrouver des goudrons, on va retrouver des hydrocarbures. Donc tout ça mélangé va vraiment donner une pâte pas très appétissante, qui va être du coup sous forme de concentré toxique.
Est-ce que votre usine est ouverte au public pour ceux et celles qui voudraient arrêter de fumer ? C'est pas mal, non, comme argument de voir cette boue qui était dans le mégot, hein ?
Alors effectivement, on essaye de faire des visites pour pouvoir montrer justement l'innovation sur la partie dépollution. C'est des fois assez complexe parce que comme le mégot est un déchet dangereux, on est aussi sur un site avec beaucoup de normes, ce qui fait que c'est plus compliqué aussi pour recevoir des personnes sur site. Mais on essaye quand même de se structurer et de préparer les locaux pour pouvoir quand même pouvoir montrer aux gens le problème du mégot, ce qui peut causer pour l'environnement, mais aussi bien sûr ce qui peut causer pour le corps humain.
Vous ne fumez pas, j'imagine, Julien ?
Non, et encore moins du coup quand je vois ce qu'on extrait, c'est pas...
C'est un bon vaccin.
Ça fait peur. Ouais, c'est ça.
Alors on le disait, ces mégots de cigarettes sont recyclés en rembourrage textile pour fabriquer des doudounes, mais aussi en matériaux isolants pour le bâtiment. Est-ce que c'est un isolant compétitif par rapport à ceux qui sont sur le marché ?
Effectivement, aujourd'hui, le vrai challenge, c'est de réussir à faire tenir un modèle économique avec cette activité. Donc dans notre modèle, en fait, on vend des cendriers et des prestations de traitement auprès des entreprises et des collectivités. Et en fait, nous, ça nous permet de générer un flux matière et financier. Parce que le coût de dépollution va coûter beaucoup plus cher que la revente du matériau à la sortie. Aujourd'hui, on n'a aucune aide. Il y a personne qui nous aide à financer le coût de traitement de la toxicité. Et malheureusement, que le coût de dépollution avec le coût de revente, aujourd'hui, n'est pas encore rentable. Donc, on est obligé de vendre des solutions de collecte en entrée. Donc, avec ce modèle économique, on arrive à être compétitif sur la revente du produit recyclé parce qu'on a justement un flux financier aussi à l'entrée sur les solutions de collecte. Mais l'idée, c'est aussi d'aller chercher des très grosses économies d'échelle pour pouvoir après faire en sorte de baisser les coûts de traitement et pouvoir aussi baisser nos coûts de collecte pour après essayer de tendre vers la gratuité de la collecte des mégots.
Oui, c'est ça l'ambition à terme, hein, c'est que ce ne soit pas un coût pour vous que de les collecter.
C'est ça exactement, à terme. Alors le vrai challenge, ça serait de pouvoir et de réussir à intégrer les éco-organismes qui sont mis en place, un peu comme pour la pile ou la cartouche d'encre. Les fabricants du coup de cartouches d'encre ou de piles financent une contribution pour aider les entreprises qui récupèrent les produits toxiques pour pouvoir les traiter. Mais nous, l'idée à terme, ce serait aussi de pouvoir intégrer l'éco-organisme qui est en place aujourd'hui pour les mégots pour qu'une partie du financement puisse permettre aussi de financer le traitement et surtout la dépollution de la toxicité des mégots. On a beaucoup travaillé l'isolation acoustique puisque c'est un très bon aussi absorbant du son. Donc on va pouvoir travailler sur tout ce qui est des sous-plafonds par exemple. Donc là, comme on monte en puissance, on peut aller chercher ces nouveaux marchés et ce qui permet du coup de se diversifier aussi sur les offres de sortie.
Est-ce que ça rebute parfois vos clients et clientes, l'idée que ce soit des mégots recyclés ?
Alors forcément, au départ, je pense que ça peut faire un peu peur puisque ça reste un déchet à la base qui n'est pas forcément très propre, qui est même très sale, qui finit au sol et qui est assez odorant. Donc forcément, au début, oui. Après, on essaye d'expliquer aux clients, on leur montre les process qu'on a pu développer. On va aussi parler de l'extraction CO2 supercritique qui est très performante et vraiment après représenter une matière première propre et sans odeur. Et là, quand on présente aux clients vraiment cette matière, je pense que ça a aussi un atout fort puisque du coup, ils voient vraiment la matière et du coup, ça apporte vraiment une solution du coup, qui a aussi du sens pour pouvoir répondre à ces problématiques et montrer que même les déchets les moins sexy peuvent devenir des matières premières qu'on peut porter sur soi-même.
Merci beaucoup, Julien Pack, président de Ciao Mégo à Brel, dans l'Oise. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
France Inter. Carnet de campagne.
Des plaquages et des essais pour la bonne cause. Un tournoi de rugby au profit d'associations est organisé le mois prochain à Beauvais. Et la particularité de cet événement, c'est qu'il est entièrement porté par des étudiants et étudiantes d'une école d'ingénieurs, Unilassalle. Bonjour Clarisse Miseret.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en quatrième année à Unilassalle Beauvais et engagée dans l'organisation de ce tournoi qui s'appelle les Ovalies. Il est prévu les 9 et 10 mai. Alors c'est une année importante, hein. C'est la 30e édition du tournoi et on vient de toute l'Europe pour participer.
Oui, exactement. Les Ovalies Unilassalle, c'est le plus grand tournoi de rugby universitaire à but solidaire d'Europe et on a la chance de compter en plus d'étudiants d'écoles d'ingénieurs de France, d'écoles de commerce, mais aussi d'universités, des étudiants étrangers venus de Roumanie, d'Italie ou encore des Pays-Bas.
On peut le dire, Clarisse, l'Oise n'est pas tout à fait une terre de rugby. Pourquoi le choix de ce sport en particulier ?
Non, tout à fait. Il est vrai que c'est plus un sport issu du Sud et on a la chance de pouvoir le porter ici dans le Nord, à Beauvais. Je pense que c'est vraiment l'amour de ce sport qu'on a ici à Unilassalle. On est une école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et géologie. Et c'est un peu le sport de prédilection des étudiants ici. Donc ça fait 30 ans maintenant qu'on porte ce beau projet que sont les Ovalies Unilassalle.
Et vous jouez, vous ?
Alors non, je ne joue pas, mais je fais partie de l'organisation comme 83 autres étudiants de quatrième année ici. Et nous sommes aussi soutenus par 500 autres bénévoles durant le week-end du 9 et 10 mai.
Alors c'est un tournoi très riche hein, puisqu'on va jouer au rugby à 15, au rugby à 7, au rugby en fauteuil. Et il y a même un tournoi de pom-pom. Pas des pom-pom girls, hein, des pom-pom tout court.
Non, évidemment, c'est une volonté d'inclusion, pom-pom girls, mais aussi pom-pom boys, en fait. On inclut tout le monde et c'est aussi ce que l'on veut montrer avec le tournoi de rugby en fauteuil, qui est une discipline qui peut être jouée par des personnes valides, mais aussi des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment ce qu'on veut montrer dans les Ovalies, c'est l'inclusion et on a aussi labellisé en dynamique, justement, ce qui montre cette démarche.
Alors le but, c'est de verser des fonds à des associations. Ce sont les équipes qui payent pour s'inscrire ou vous avez également des sponsors ?
Alors ce sont les deux, on a des équipes, nos équipes payent pour s'inscrire, mais on a aussi des sponsors qui sont là pour nous aider à financer ce projet, cet événement. Et donc, c'est ça qui nous permet de récolter des fonds que nous versons à 3 associations cette année. Donc, depuis 30 ans, on a versé plus de 800 000 euros de fonds. Et l'année dernière, c'est 80 000 euros qui ont été donnés aux 3 associations. On espère cette année battre ce record et reverser à Procitech, Endo-France et Un Maillot pour la Vie, qui sont les associations que nous soutenons, une somme qui leur permettra de réaliser de beaux projets.
Voilà, 80 000 euros l'année dernière, vous visez les 100 000 cette année.
Ce serait une belle chose, on pense, pour ces associations qui, en plus, ont des beaux projets de sensibilisation et prévention des fonds marins et création de récifs artificiels pour l'association Procitech, soutenue par notre parrain Christian Califano. Mmh. L'association Endo-France, qui, elle, sensibilise et gère la recherche sur l'endométriose. Et aussi l'association Un Maillot pour la Vie, qui est là pour réaliser des activités sportives, des jeux, des animations, en fait les rêves des enfants hospitalisés. Et cette association est soutenue par des grands noms du rugby, et notamment notre marraine de la 30e édition, Koumba Diallo, qui est l'ancienne capitaine du 15 de France.
C'est important pour vous, en tant qu'étudiante, en plus de vos études en école d'ingénieur agronome, de participer à cette aventure associative, Clarisse ?
Oui, c'est vraiment enrichissant et c'est une plus-value qu'on apporte à notre diplôme. En fait, toute cette gestion de projet associatif, l'école nous porte vraiment et nous pousse énormément à nous investir dans l'associatif. Et c'est très professionnalisant comme projet, étant donné qu'on est tous divisés en pôles au sein des Ovalies. On va avoir par exemple le pôle partenariat qui va gérer tous les partenaires qui soutiennent les Ovalies. Et forcément, ce sont des partenaires souvent qui restent dans le domaine de l'agronomie, de l'agroalimentaire. Donc, c'est déjà un pied qu'on a dans le monde professionnel. Et on a aussi, par exemple, le pôle amélioration continue et solidarité, donc qui vont gérer les assos, mais aussi les labels et les engagements des Ovalies et la salle. Par exemple, nous sommes aussi labellisés EcoFest, ce qui est un point important pour nous pour montrer notre engagement dans le développement durable.
Les Ovalies Unis la Salle, rendez-vous les 9 et 10 mai. Ça se passe au stade Marcel Communeau à Beauvais. Merci beaucoup, Clarisse.
Merci à vous.
Et je vous invite à nous écrire, chers auditeurs et auditrices, si vous avez des gens géniaux ou des initiatives remarquables à signaler partout en France, et notamment dans le département des Yvelines, en Ile-de-France, qui sera bientôt à l'honneur. Sur le site de France Inter, rubrique carnet de campagne, vous cliquez bien sûr sur « Contacter l'émission ».